Danseur, DJ, ingé son, comédien, vidéaste, graphiste, photographe, musicien, peintre, styliste, tatoueur, auteur. Des métiers qui n'ont rien à voir. Pas les mêmes horaires, pas les mêmes revenus, pas les mêmes publics. Et pourtant, ils ont quelque chose en commun. En Belgique, ces métiers peuvent tous rentrer sous une même expression. Le statut d'artiste. Un mot qu'on entend souvent, mais qu'on comprend rarement. Aujourd'hui, durant notre émission, nous allons essayer d'y voir plus clair, savoir d'où ça vient, ce que ça change et ce que cela dit de notre société. Bienvenue.
Pour vous, c'est quoi un artiste ?
Un artiste, bah, c'est d'abord un créateur, quelqu'un qui imagine le monde à travers son art, son imagination, et qui peut aussi éveiller l'attention de la population sur différents problèmes, mais autrement que par les voies habituelles.
Un artiste, je dirais que c'est avant tout un état d'esprit. Je pense qu'on n'est pas obligé de vivre de son art pour être un artiste.
Un chirurgien qui sait très bien faire son boulot, ça peut être considéré comme de l'art.
Alors, quand est-ce que c'est de l'art ? Quand c'est de l'artisanat ? Qui sait ?
C'est une bonne question. C'est quelqu'un qui crée des choses qui n'ont pas une utilité immédiate.
Selon vous, est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'art aujourd'hui ou est-ce encore un métier instable ?
C'est possible avec beaucoup, beaucoup de détermination et de sacrifice.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Picasso, il a eu beaucoup de chance. Van Gogh n'en a pas eu beaucoup.
Statistiquement, majoritairement, c'est un métier, une profession...
Instable. Je pense qu'il y a beaucoup de compétition. Enfin, il n'y a pas un salaire fixe ni rien, donc c'est...
Très compliqué, d'autant plus que ce n'est pas du tout une priorité pour le gouvernement quand on voit le budget alloué à la culture.
Et si vous y arrivez, vous êtes très chanceux parce que vous ne travaillez pas, vous faites ce que vous aimez.
Vous savez ce qu'est le statut d'artiste ?
Non, j'ignore ce qu'est le statut d'artiste.
Sur le plan légal, je ne sais pas ce que c'est le statut d'artiste. Je suppose que c'est quand même un statut qui est réglementé. Maintenant, dans le détail spécifiquement, non, je ne sais pas.
Oui, donc c'est un statut qui permet d'être financé quand bien même on aurait des périodes de travail très éloignées les unes des autres.
Le statut d'artiste, il permet à certains artistes de bénéficier de certains avantages quand ils n'ont plus d'engagement, par exemple. C'est quelque chose qui devrait être certainement maintenu et pas supprimé, parce que l'art est fondamental dans la vie.
Est-ce que l'État devrait aider les artistes, par exemple en finançant leurs projets ou en garantissant des droits sociaux ?
C'est une bonne question à nouveau.
Tout à fait, l'État doit, ou la collectivité en tout cas, doit leur garantir des moyens de subsistance. Reste à définir ensuite les moyens de cette subsistance, ce qui n'est pas une question aisée.
Pour adoucir les mœurs, il faut quand même un peu plus d'art que de guerre et de business.
L'art, les projets des artistes, ils permettent de promouvoir en général le pays, et ça garantit aussi le patrimoine et le soft power du pays. Donc ça attire aussi des touristes, donc en vrai c'est hyper intéressant de développer ça et de faire en sorte que l'État finance les artistes, je pense.
Pour comprendre l'état de santé de la profession d'artiste, il faut revenir dans le passé. Parce qu'attention, à une époque, l'artiste n'existait pas. Avant les génies, les signatures, les musées, il y avait surtout des artisans. Pour comprendre comment la figure de l'artiste s'est construite, il faut repartir du début. Nous avons donc interviewé Didier Martens, professeur d'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles. À partir de quand et pourquoi commence-t-on à considérer les artistes autrement que comme des simples artisans ?
Alors c'est une question assez complexe à laquelle il y a moyen de répondre de différentes manières. La manière classique serait de considérer que le statut de l'artiste change fondamentalement à partir du moment où l'on commence à lui consacrer de la littérature. Donc à partir du XVIe siècle en Italie, vous avez les plus anciennes publications de vie d'artiste associées à une personnalité qui elle-même était d'ailleurs un artiste peintre ambitieux, Giorgio Vasari. Et en 1550, Giorgio Vasari publie une première série de vies de peintres essentiellement toscans du XIVe, du XVe et du XVIe siècle. Et cette publication de vie de peintre va très rapidement connaître le succès, puisqu'en 1568, à Florence, vous avez une seconde édition du même ouvrage, cette fois-ci même avec des portraits de peintres, des portraits donc des peintres auxquels est consacrée une notice biographique. Et donc à partir de ce moment-là, se diffuse un genre littéraire, celui de la biographie d'artistes, dans toute l'Europe. Dans nos régions en néerlandais, il y aura des vies d'artistes du présent et du passé, publiées par Karl van Maander en irlandais en 1604. Et donc à partir de l'époque de Vasari, à partir du XVIe siècle, se diffuse vraiment l'idée que l'artiste, en tout cas les grands artistes, méritent qu'on leur consacre de la littérature, qu'on leur consacre une biographie, qu'on leur consacre des ouvrages imprimés. Et ce sont donc des personnages qui, tout d'un coup, vont avoir le même statut que des grands écrivains, que des rois, que des reines. Il y a des possibilités de valorisation qui sont offertes aux artistes par la société à partir du XVIe siècle, à partir de la Renaissance.
Comment la relation entre l'artiste et le pouvoir, donc tout ce qui est église, noblesse, mécène, a-t-elle influencé la création artistique à cette époque ?
Oui, alors c'est effectivement fondamentalement la source même de l'activité artistique, en tout cas à grande échelle, que cette interaction entre le pouvoir religieux, le pouvoir civil, les princes, les rois, l'aristocratie d'une part et l'artiste d'autre part. Nous sommes en fait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans une culture où les grands projets artistiques sont liés au mécanisme de la commande. Et la différence est énorme par rapport au XIXe siècle, puisque c'est vraiment avec le XIXe siècle qu'apparaît la figure de l'artiste de salon, tout d'abord en France, avec des artistes comme Géricault, Delacroix. Ce sont des artistes qui prennent eux-mêmes l'initiative de réaliser une œuvre de grand format, comme par exemple Géricault, le radeau de la Méduse, ou Delacroix, les massacres de Chios. L'artiste donc investit dans la réalisation d'une œuvre dont le sujet se doit d'être original, souvent un sujet porté par l'actualité, un sujet qui va faire discuter, et l'œuvre est présentée au salon, et suscite les commentaires des visiteurs, les commentaires de la presse, et sera en général achetée, si elle a du succès, soit par un collectionneur, soit même par un grand musée. Et donc là, nous sommes évidemment au XIXe siècle, dans une toute autre culture que celle de l'Ancien Régime, où dorénavant, l'initiative de réaliser une œuvre monumentale peut appartenir et appartient même de plus en plus souvent à l'artiste lui-même.
Ben maintenant, on a parlé du 18e, du 19e. Au 20e siècle, avec les politiques culturelles et la démocratisation de l'art, comment évolue la place de l'artiste dans la société, plutôt au niveau européen ?
Alors fondamentalement, le 20e siècle, je dirais, se caractérise par une certaine marginalisation de l'artiste. L'artiste qui produit fondamentalement des biens dont la culture, ou en tout cas la société dans laquelle il vit, peut-être pas la culture, mais la société dans laquelle il vit, peut parfaitement se passer. Et donc, nous ne sommes plus du tout, évidemment, dans une société où il y a un besoin institutionnalisé d'images, le portrait du roi, le portrait des princes, et tout l'art religieux lié à des fonctions cultuelles dans le contexte de la religion catholique. Tout cela a évidemment disparu, disparaît déjà partiellement au XIXe, disparaît complètement au XXe siècle. Et il y a donc une certaine marginalisation de l'artiste qui produit des objets dont, fondamentalement, la société dans laquelle il vit peut se passer.
Est-ce que, du coup, toutes ces transformations historiques, toutes ces évolutions expliquent en partie la création du statut d'artiste qu'on connaît aujourd'hui ?
Oui, certainement. Donc le statut de l'artiste aujourd'hui est vraiment le résultat de dynamiques sociales et de transformations sociales qui se sont étendues de la Renaissance jusqu'à l'époque actuelle, en passant donc par la Révolution française. Et alors nous arrivons évidemment aujourd'hui au terme de ce processus de marginalisation croissante de la figure de l'artiste avec l'intelligence artificielle et la possibilité de réaliser des images en fait offertes à des non-professionnels, ce qui se dessine vraiment depuis la fin du XIXe siècle, c'est le fait que tout un chacun peut être artiste, qu'il n'est plus nécessaire d'avoir appris des techniques de représentation complexes et, comme je le disais déjà, l'accès à des colorants chimiques fait qu'il est tout à fait possible de peindre sans ne vendre une seule œuvre. La peinture devient loisir, ce qui n'est évidemment pas le cas dans des sociétés où les pigments étaient extrêmement onéreux, où on peignait souvent encore jusqu'au XVIIe siècle sur panneau, et donc il fallait acheter un panneau fabriqué par un menuisier professionnel. À partir de la fin du XIXe siècle, on peint donc avec des colorants chimiques peu onéreux sur des toiles produites de manière industrielle. Et puis on arrive au début du XXIe siècle où il est possible, en n'ayant aucune expérience du dessin et de la peinture, de concevoir des images parfois très élaborées, et certaines sont d'ailleurs esthétiquement extrêmement séduisantes grâce à un certain nombre de clics. Et l'on voyait déjà combien la peinture, à la suite de la photographie, allait cesser d'être fondamentalement un métier réservé donc à des professionnels dès les années 80 du XXe siècle. Cette évolution était bien perceptible. Et puis maintenant, avec le développement des imprimantes 3D, l'on voit très bien que même le métier de sculpteur, qui a toujours été associé à un haut degré de professionnalité, déjà on ne s'improvise pas peintre dans la société pré-industrielle, mais on s'improvisait encore moins sculpteur, sculpteur sur bois, sculpteur sur pierre. C'était deux métiers tout à fait différents, car on ne maîtrise que très rarement la technologie très différente de la sculpture sur pierre et de la sculpture sur bois. Et avec l'avènement des imprimantes 3D, on commence à envisager le moment où la sculpture sera également totalement déprofessionnalisée, associée donc à un simple loisir qui n'impliquera plus aucun degré de spécialisation et donc de professionnalisation.
Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous guider à travers l'histoire de l'artiste et merci pour votre temps.
C'était bien volontiers.
Ce qu'on comprend, c'est que la place de l'artiste n'a jamais été naturelle, ni garantie. Elle s'est construite, négociée, transformée avec le temps. Et c'est ce qui nous amène à nous demander, qu'est-ce que ça veut dire être artiste aujourd'hui ?
On connaît dès à présent, de manière générale, la construction de la figure de l'artiste. Mais aujourd'hui, loin des tableaux et des mythes, être artiste, c'est d'abord travailler. C'est avoir à chercher des dates, monter des dossiers, envoyer des mails, courir après des contrats, travailler pendant des heures qu'on ne compte pas finalement. C'est créer, et oui. Mais c'est aussi patienter, recommencer, renoncer parfois. Être artiste est un métier où le salaire change, où les semaines ne se ressemblent pas, où l'avenir tient souvent sur un fil. Alors, nous avons voulu quitter cette idée pour entrer dans le quotidien de Guillaume Malempré, un artiste qui a accepté de témoigner pour nous aujourd'hui.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Quel est votre domaine artistique ? En quoi consiste votre art ?
Alors, donc moi je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans et je fais de la batterie et des percussions. Donc j'ai étudié la batterie au conservatoire à Bruxelles. Et mon art consiste en plusieurs choses, ça dépend un peu. Des fois je travaille avec des musiciens qui font appel à moi pour faire des concerts, pour faire du studio, pour faire tout ce qui concerne la musique de manière au sens large. Et puis des fois, du coup, c'est des projets où je suis plutôt aussi dans la création, dans la composition, et où je suis en collaboration avec des amis, des collègues, pour créer soit des nouveaux morceaux, soit pour faire du nouveau répertoire pour des concerts. Et je fais beaucoup de styles différents. J'ai étudié le jazz, mais je joue autant du jazz que Pas mal de musique des Balkans, pas mal de musique un peu plus pop, rock, punk. Donc voilà, mon art, il consiste en fait à faire plein de choses différentes parce que je ne sais pas rester à faire qu'une seule chose.
Merci. Quand vous dites que vous êtes artiste, comment les gens réagissent? Est-ce qu'ils considèrent que ce que vous faites, c'est un vrai métier ou il y a toujours des clichés qui perdurent?
Ça dépend toujours un peu de l'interlocuteur, évidemment. Mais c'est vrai que, en fait, la réaction que j'ai le plus souvent quand je dis que je suis musicien professionnel, c'est genre, ah waouh, ça doit être super de vivre de sa passion. En général, c'est la première réaction que j'ai. Puis quand je gratte un peu et voir ce qu'il y a derrière, les gens ont encore une image de ce que c'est d'être musicien ou artiste, de manière générale, qui n'est pas toujours vraie. Je pense à un truc là tout de suite, par exemple, pour la recherche d'appartement. Quand on doit déposer un
Okay.
dossier, etc. Ça, c'est pas facile. Là, on peut venir un peu titiller et questionner le côté, est-ce que c'est un vrai métier?
Merci beaucoup. Alors, dans votre quotidien, comment s'organise votre travail artistique? Est-ce qu'il y a une semaine type ou est-ce que ça change, ça varie tout le temps?
Non, j'ai pas vraiment de semaine type. J'ai quelques trucs qui sont fixes, notamment des cours que je donne, parce que je donne aussi un peu des cours de batterie. Mais sinon, ma semaine, elle peut vraiment être très différente. J'ai envie de dire même un mois peut être différent, parce que ça varie beaucoup en fonction des demandes que j'ai. Donc si j'ai beaucoup de concerts, je vais avoir un gros mois avec des concerts. Et donc, qui dit beaucoup de concerts dit aussi préparer les concerts. Donc faire des répétitions, faire au-delà de la préparation musicale, il y a aussi tout ce qui est préparer le concert, l'événement en tant que tel, donc savoir l'organisation du concert. Il faut aussi, enfin voilà, donc il y a pas mal de trucs comme ça, donc tout ce qui est vraiment concert. Puis après, il y a tout ce qui est plus créatif, donc tout le côté composition, création, préparation de nouveaux répertoires. Donc ça, c'est aussi, en fait, c'est beaucoup de l'autogestion. C'est vraiment être en autogestion tout le temps. Tout le temps se trouver des nouvelles missions et tout le temps se trouver des choses à faire. Parce qu'en fait, on a toujours des choses à faire. Et si tu n'es pas attentif à ça, tu peux vite te rendre, enfin, tu peux vite te laisser soit te déborder, soit t'ennuyer.
Donc, parlons un peu statut. Est-ce que vous y avez accès? Qu'est-ce que ça change ou ne change pas dans votre vie?
Alors, donc oui, moi j'ai le statut d'artiste. Mais avant, je n'avais pas le statut d'artiste, donc je peux un peu répondre aux deux aspects. Donc le statut d'artiste, ça va faire 2 ans que je l'ai maintenant. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma vie? Ben, ça a donné une stabilité financière, en fait, hein. C'est vraiment, donc j'expliquais juste avant qu'il y avait donc des mois assez pleins et des mois assez creux. En fait, le statut d'artiste, il vient vraiment apporter cette stabilité quand on a un mois creux. Qu'est-ce que j'appelle un mois creux? Ce n'est pas un mois où je fous rien. En fait, c'est un mois où, justement, quand on est plus dans la création, par exemple ici, je suis en train de préparer en train de faire du studio, en train de faire de la composition et de créer du nouveau répertoire. Ben ça, c'est des choses qu'un client, pour un concert, il ne va pas nous rémunérer. Donc, le statut, il nous apporte dans ces moments de création, dans ces gros mois de studio et de compos, etc. Il nous apporte vraiment une stabilité où je vais avoir peut-être moins de concerts. Donc le statut, il me permet d'avoir un équilibre durant toute mon année. Parce que les mois où j'ai plus de concerts, évidemment, bah, ça se régule et je reçois moins d'argent de la part de l'ONEM, en fait, parce que c'est l'ONEM qui fait ça. Enfin, c'est mon organisme de paiement. Moi, je suis à la FGTB pour dire les noms. Donc, moi, c'est mon organisme de paiement, la FGTB, avec qui je traite directement, mais c'est l'ONEM quand même qui supervise le tout, hein. Je ne vais pas dire de bêtises administratives, mais en gros, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Donc, ça m'apporte une stabilité quand j'ai des mois où j'ai moins de clients, moins de concerts, en fait. Et donc, quand j'en ai plus, ben, en fait, on est chaque fois rééquilibré. On a à chaque fois, on reçoit de l'argent de la part de l'ANEM pour rééquilibrer quand on a beaucoup de concerts ou moins de concerts, quoi.
Merci, merci. Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous devez cumuler plusieurs activités pour faire face à l'instabilité? Et est-ce que ça influence votre manière de créer?
Moi, du coup, dans mon cas, vu que j'ai le statut d'artiste, je ne dois pas cumuler d'autres activités. Maintenant, avant d'avoir le statut, j'avais un mi-temps en tant que professeur de musique. Et le reste, du coup, à côté de mon mi-temps, c'était des revenus avec mes concerts. Donc ça restait quand même dans le domaine musical, ça aurait pu être un mi-temps dans autre chose. Mais il y a pas mal de d'artistes, musiciens ou autres, moi la musique, c'est ce que je connais le mieux, qui doivent trouver une autre activité pour avoir le complément, parce qu'ils ne savent pas vivre juste avec la musique. Et par contre, le statut, du coup, ça me permet de rester focus sur la musique. Donc ça, c'est vraiment le net avantage d'avoir ce statut, c'est de pouvoir continuer à faire que ça. Donc ça, c'est vraiment le bonheur, on va pas se mentir.
Et c'est assez compliqué. Vous avez eu des difficultés à pouvoir obtenir le statut?
C'est beaucoup de paperasse, ouais. C'est beaucoup de pa En fait, c'est très stressant parce que tu as l'impression que tu vas jouer ta vie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était vraiment un objectif pour moi ou quoi, mais il y a ce côté un peu stressant de se dire, ah, faut gérer le truc. Donc, c'est quand même beaucoup de paperasse et de trucs administratifs avec des numéros et des lettres que tu n'as jamais entendu avant. Le A, 230 000 trucs. Enfin, voilà. Donc, il y a quelques trucs un peu où il faut se renseigner. Après, moi, j'ai quand même eu la chance d'être accompagné par beaucoup de potes musiciens qui le faisaient au même moment. Donc ça a créé un peu une entraide et un truc assez chouette. Et il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui s'appelle Entraide Artistes, Musiciens, Statut d'Artiste. Je ne sais plus exactement le nom du groupe Facebook, mais je m'étais mis là-dessus. Donc il y avait quand même de l'entraide qui était assez chouette. Mais ouais, de manière générale, c'est quand même que de la paperasse et que des trucs. Et c'est un peu bizarre même de devoir. Enfin,
Justifié.
bizarre. Ouais, c'est ça. Tu dois justifier que tu travailles et que tu glandes rien, tu glandes pas rien, quoi. En fait, c'est un peu. T'es là. Ouf. Ça, c'est. Voilà.
Il faut justifier avec des contrats, j'imagine, les activités sur Internet ou autre.
Ouais, c'est ça. En fait, l'ONEM attribue un certain montant pour un jour de travail. Je ne sais plus le montant par cœur, mais c'est un jour de travail en contrat, genre quand tu déclares, je sais pas, 150 balles, ça vaut plus ou moins un peu plus d'un jour, un truc comme ça. Donc à chaque fois que tu fais un contrat de travail, quand tu fais une prestation de musique, dans mon cas, eh ben ça va, en fonction de la somme que tu déclares, ça va valoir un jour ou plus d'un jour. 2 jours et demi, en fonction si tu déclares plus, si tu déclares un concert pendant à 500 €, ben ça peut valoir, je ne sais plus les chiffres par cœur, hein, je dis des bêtises, hein, mais 2,5 jours. Et le but, c'est d'avoir, donc en fonction de tous les cachets que tu auras eu, donc tu accumules une somme, et donc en fait, tu accumules des jours de travail, et donc tu dois prouver ce nombre de jours, tu dois avoir un jour minimum pour pouvoir avoir accès au statut d'artiste. Je pense que maintenant, ça a un petit peu changé. Parce que je l'ai fait juste avant qu'il y ait des réformes qui changent. Donc, je pense que ça a un petit peu changé, soit pour le nombre de jours, soit pour exactement la procédure. Donc,
Négativement.
ça, je sais, non, je vais pas me prononcer parce que je connais pas. Donc,
Parfait.
voilà.
Bon, bah, écoute, il reste deux petites questions. Beaucoup d'artistes racontent que la pression et l'instabilité jouent un rôle sur leur morale. Est-ce que vous vous sentez que ça peut peser sur votre santé mentale?
La pression et l'instabilité. Si on parle d'instabilité financière avec le statut, du coup, bah, je suis beaucoup moins stressé. Quoique, j'ai quand même eu des moments un peu stressants parce que quand tu vis en colocation, par exemple, donc tu dois prouver que tu es une personne isolée pour le statut. Et en fait, bah, tu vis concrètement avec d'autres gens dans une maison, par exemple. Donc, tu dois prouver que tu es isolé, etc. Tu dois signer une lettre sur
C'est bien
l'honneur.
de
Et
la
en fait, j'ai.
colocation et pas de la
Mais c'est bien.
cohabitation.
Ouais, c'est ça. C'est bien de la colocation. Moi, je payais. Donc, tu dois prouver. Encore une fois, c'est que prouver et des papiers, quoi. Hein. Donc, tu dois prouver que tu es bien une personne isolée, que tu payes tes charges de ton côté, etc. etc. Et moi, j'ai eu une période où ça a beaucoup bougé dans la coloc. Donc, plus ou moins, toutes les 1 mois et demi, 2 mois, je devais retourner, prouver. Je devais re-signer une lettre sur l'honneur, puis à un moment donné, j'ai eu un contrôle du coup de l'ONEM me disant, enfin, il commençait à se demander si. Donc, quand tu as ce truc de contrôle, en fait, c'est un peu stressant. Tu as peur qu'on te retire ton revenu, enfin, ta bouée de sauvetage, ton bagage fixe. Donc, ça, c'est un peu stressant. Ça peut être un peu un truc, tu te dis, waouh, je dois
Imaginez
toujours
perdre le
prouver.
statut, là, ce serait désastreux pour vous.
Si je perds le statut, moi je sais pas comment je fais. Hein. Franchement, je ne sais pas comment je fais. C'est le stress intégral. Donc de ce côté-là, c'est un peu le stress. Une fois que tu apprends à vivre avec ce truc-là, et puis que tu fais ce que tu dois aussi. Hein. Moi, j'ai été contrôlé, mais j'étais en ordre. Donc théoriquement, il n'y a pas de raison qu'on me le retire. Donc une fois que tu apprends à vivre avec ce stress, entre guillemets, hein, voilà, avec ce truc, à jongler avec tout ça, bah, tu arrives quand même à faire ton truc et avancer. Maintenant, il y a d'autres stress, autres qu'un stress financier qui peut apparaître, enfin, le stress même juste de te produire en live, le stress de... Moi, j'ai eu beaucoup le stress on appelait ça le téléphone qui sonne pas quand tu es musicien et qu'il n'y a personne qui t'appelle comme ça. Le truc où tu as l'impression qu'on va plus jamais t'appeler et les réseaux sociaux, ils jouent un gros rôle avec ça aussi, je trouve. À l'heure des réseaux sociaux, c'est toujours se mettre en avant et montrer que ta vie est beaucoup mieux que les autres. Et donc, fatalement, dans la musique, bah, pareil, montrer que pas que tu joues mieux qu'un autre, mais que voilà, qu'il se passe des choses pour toi, c'est toujours mettre en avant ta carrière. Alors moi, c'est un truc avec lequel je suis pas trop à l'aise et qui est dur pour moi de jouer ce jeu-là, en tout cas. Et donc ça a pu me créer des stress de me dire que ah, mais lui, il fait ça mieux que moi, il a plus d'activités que moi, il a plus de concerts. Et donc ça joue un truc de comparaison qui est super malsain et qui est hyper envahissant et pas nécessaire, en fait. Il n'est pas du tout nécessaire. Une fois que tu arrives un peu à décortiquer ça, bah, en fait... Tu stresses moins et tu vis ta life et t'avances sur tes projets. C'est beaucoup plus sympa.
Ok, c'est ce qui mène à la dernière question. Malgré tout ce stress et ces contraintes, vous tenez dans ce métier. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait continuer?
Pourquoi je tiens dans ce métier? Parce que je pense que je ne me vois pas faire autre chose. Et depuis tout gamin, en fait, je pense que je joue de la batterie depuis que j'ai 6 ans, un truc comme ça. Je pense que, en fait, ça fait partie de mon ADN sans que je m'en rende même compte. Enfin, à chaque fois que j'imagine un truc d'avenir professionnel, pour moi, c'est il y a toujours un truc avec la musique. Que ce soit être musicien ou faire, pour le moment, je m'amuse pas mal à faire de la prod, donc plutôt un rôle de producteur, mais toujours dans la musique, ou je sais pas, il y a toujours un lien avec la musique, donc j'arrive pas à m'imaginer faire autre chose. Pour le moment, en tout cas. Donc c'est ça qui me fait tenir. Et ce qui me fait tenir aussi, c'est la passion et c'est le plaisir de voir des choses se réaliser aussi qui me touchent, qui me parlent, quoi. Je ne saurais pas personnellement être enfermé dans un bureau tous les jours de ma vie à devoir faire. Enfin, je ne saurais pas faire un job de bureau et ça change tout le temps la musique. C'est super quand je suis dans un studio, comme je le disais, en train d'enregistrer, ou quand je suis à un concert, ou quand je suis parti en tournée. Je rencontre beaucoup de gens. Voilà, c'est vraiment un métier social pour moi, en fait, qui me fait rencontrer des gens, qui me fait changer d'atmosphère assez souvent. Et moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui marche pour moi.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est peut-être la réalité la plus simple et la plus oubliée. L'artiste, au-delà d'être un passionné, c'est un travailleur. Un travailleur sans horaire fixe, sans sécurité constante, parfois même sans reconnaissance. À partir de là, la question dépasse l'individu, le parcours, la discipline. Qu'est-ce que notre société doit à celles et ceux qui la font imaginer? La réponse n'est pas individuelle. Elle est éthique et politique. Et maintenant, nous vous proposons un interlude musical, accompagné d'une artiste belge et bruxelloise, K.O., sur le titre Moonwalker. Thank you. C'était donc Moonwalker, et petite rectification, c'est un trio d'artistes belges.
On a parlé d'histoire, on a parlé de travail. Maintenant, il reste une question simple. Quelle place l'art occupe-t-il dans notre société ? Parce que ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas qu'un parcours individuel, c'est le résultat de choix collectifs.
Il y a un an, la Belgique a remplacé le statut d'artiste par le statut des travailleurs et travailleurs des arts. Une réforme importante, présentée comme une avancée. L'idée est de donner une protection sociale à celles et ceux qui vivent de la création, malgré des contrats irréguliers. Mais comme toute réforme, elle trace une ligne. Qui est reconnu comme étant un artiste et qui ne l'est pas ? On a posé la question à Christelle van der Stappen, directrice de la Brussels Art Melting Pot, qui a accepté d'être interviewée pour notre émission.
Bonjour Christelle, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre émission radio. La première question, c'est est-ce que notre société reconnaît l'artiste comme un professionnel ?
Je crois que notre société reconnaît les artistes comme professionnels, mais n'a pas du tout conscience ou ne se rend pas du tout compte de ce que c'est ces métiers-là, de ce que c'est ces pratiques, des temporalités de création, de production pour ces artistes, ne se rend pas du tout compte du côté. Il y a tout un travail invisible, à mon avis, qui n'est pas du tout perçu à la fois par les politiques, à la fois par les publics, à la fois par le système en général. Et qui fait qu'on reste quand même toujours fort dans des économies qui sont très précaires. Mais le terme professionnel, je pense qu'il y a quand même les politiques en place se rendent compte que c'est un vrai métier, mais n'ont pas conscience de nos pratiques.
Quel devrait être, selon vous, le rôle de l'État pour le statut d'artiste et pour les artistes dans leur vie ? Donc, garantir un minimum vital, soutenir des projets ou laisser le marché décider ?
Alors le rôle de l'État, moi je pense que la culture, elle a toujours été de tout temps subventionnée. En fait, la culture par définition n'est pas rentable. Et je vais aller plus précisément même encore dans les arts vivants, parce que en art plastique et il y a d'autres types d'économies, mais pour les arts vivants, c'est quand même très très compliqué cette question de rentabilité. Et ce n'est pas rentable pour plein de raisons. C'est déjà parce que l'ensemble du processus est quand même est très long. À partir du moment où tu penses à l'idée, à un moment donné où elle se concrétise, il y a quand même parfois 3 ou 4 années qui se passent. C'est un long chemin. C'est aussi énormément de questions par rapport à un produit fini. C'est des questions par rapport au fait de faire rentrer les gens dans un théâtre et donc de rendre les lieux accessibles. Les politiques culturelles, en tous les cas, comme on nous les impose, pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'elles ne prennent pas du tout en compte l'ensemble de l'écosystème et que ça met à mal notre travail dans son ensemble, qui n'est pas juste sur le moment de création, mais aussi sur comment est-ce que c'est diffusé, comment est-ce que ça va à la rencontre des publics, comment est-ce qu'en fait ça traite des problématiques qui font qu'elles deviennent d'utilité publique, comment est-ce qu'on fait pour que en fait cette culture reste accessible et que les artistes puissent quand même se retrouver dans des conditions de vie décentes et qui ne sont pas précarisantes. Parce que le gros truc aussi qu'il y a avec une pratique artistique, c'est que tu ne travailles pas tout le temps, tu n'es pas tout le temps sous contrat. Il y a des moments donnés où on te met sous contrat à certaines parties du processus, mais il y a tout ce moment de réflexion, de mise au projet, de networking, d'aller trouver les partenaires. En général, c'est une phase vraiment invisible et qui n'est pas rémunérée. Oui. Et c'est là où on passe sur ce qu'on appelle un espèce de statut d'artiste, mais pour moi qui n'en est pas un. C'est juste une allocation de chômage, mais qui n'est pas dégressive, mais en fait qui est un peu le garde-fou au fait que nos pratiques et nos rémunérations sont quand même sujettes à des lois un peu comme un saisonnier, quoi. C'est-à-dire que tu travailles pas, t'es sous contrat, t'es pas sous contrat. Et c'est un peu pour pallier à ça. Et en fait, pour moi, c'est une nécessité. Parce que, pas du tout parce qu'on est des assistés, parce qu'il faut, alors que ça vraiment pas du tout. Mais parce que nos pratiques font qu'il y a des moments donnés où on n'est pas capable de générer de la rémunération pour une équipe, qu'on n'est pas capable de se payer soi-même. Et qu'on ne peut pas être dans des schémas, parce qu'il y a différentes formes dans lesquelles tu peux mettre ton projet. On se dit, mais pourquoi vous n'êtes pas plus indépendant? Mais parce qu'en fait, il y a toute une période où on serait incapable de payer nos lois sociales. Enfin, il y a plein de choses par rapport à certains statuts qu'on pourrait prendre ou qu'on sent que les politiques essayent de un peu nous pousser à aller, mais qui ne sont pas du tout justes avec nos réalités de travail.
Pour la prochaine question, c'est la diversité. Et donc la question, c'est comment éviter que la culture soit réservée à un milieu social, que ce soit du côté des artistes ou du côté des publics?
C'est une énorme question qui est très dans le cœur du justement de ce qui se passe aujourd'hui, dans le sens que si tu vas un peu te balader dans les théâtres, et tu vas voir que c'est quand même fort de l'entre-soi, et que même si tu y travailles, même si tu essayes de réfléchir à comment accueillir des publics diversifiés, voilà, on peut les nommer, mais il y a même pas besoin, que ces consciences-là sont, je pense vraiment au centre des préoccupations des lieux, en tous les cas de diffusion sur Bruxelles, que ce soit théâtre, musée, enfin là on peut vraiment faire de façon plus générale, ça reste quand même très difficile de sortir de la niche. Après, ce qui est questionnant aussi, c'est comment est-ce qu'on travaille à l'accessibilité de nos lieux, à l'ouverture de nos lieux, et en même temps, en parallèle, qu'est-ce qu'on programme? Ça, c'est une grosse question aussi, parce que parfois tu sens qu'il y a une vraie volonté de décloisonner les choses, d'inviter des publics, mais en même temps, quand tu vois ce qui est proposé et ce qui est programmé, parfois il faut vraiment avoir déjà une bonne grille de lecture, et ne fût-ce que pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Voilà, il y a différents lieux, il y a différentes façons de faire de la culture, mais c'est vrai que c'est parfois encore fort aujourd'hui, je trouve, si tu regardes, ça s'apparente à des niches, quoi. Mm-hmm. Voilà, mais ça pour moi, c'est une vraie question. T'es venu aujourd'hui, par exemple, au BAM, tu vois que pour rentrer ici, il faut déjà rentrer dans un long couloir. Rien que ça, en fait, il y a tout le monde qui ne va pas rentrer dans cet espace. Donc déjà, comment est-ce que les lieux sont, au niveau de l'architecture, mis en place? Et comment est-ce que c'est facile d'y rentrer ou pas? Par exemple, moi, le National, tu arrives, hop, tu dois monter une grande volée d'escalier pour te retrouver dans un bar à vue de tous. Il faut avoir envie de franchir ce pas, de rentrer, de se sentir légitime de pousser ses portes. Mm-hmm. Donc, toutes ces questions-là, elles sont quand même, je trouve, au cœur de la problématique. Et du fait que, pour diversifier nos publics, il suffit pas de faire de la médiation, il faut aussi réfléchir à ce qu'on programme et comment est-ce qu'on le met en avant. Moi, je vois, c'est sûr qu'ici, au BAM, on accueille des projets et qu'on fait partie d'une certaine niche, que c'est difficile, qu'il y a parfois des propositions quand on fait des sorties de résidence où tu sens que tu te dis « Ah, ben quel public est-ce que j'aurais pu faire venir à la rencontre de ce moment-là de présentation ?» Ben voilà, c'est vrai que ça pose question. Mais je crois que nous, en tous les cas, la solution qu'on a par rapport à ça, c'est de varier nos partenariats et du coup de créer, là, je parle vraiment pour le moment où, parce que nous, on n'ouvre pas vraiment le lieu au public. On ouvre une fois par mois ce qu'on appelle des live BAM pour montrer des work in progress, ou alors avec des collabs. Par exemple, on fait une collab avec les Lins Dynamites. Là, on va ouvrir nos publics avec les Halles, le Théâtre de la Vie. Bon, après là, c'est très focus sur Saint-Josse, Bruxelles et Métarage aussi, Garage 29, c'est le partenaire de ce truc-là. Okay. Après, comme t'es venu, on fait les BAM Tull. Mm-hmm. Ça essaie de nous ouvrir à un autre public. Voilà. Là, je crois qu'il y a une vraie... Il y a un vrai travail à faire avec des partenariats diversifiés pour pouvoir ramener des gens, d'autres types de publics dans nos lieux. Parce que nous, voilà, alors ça travaille à la com, ça travaille, ça essaye. Mais c'est pas si facile, quoi, de faire venir les gens, de les déplacer. Et je crois que c'est parce que c'est aussi parfois très vertigineux. Et parce que parfois, il y a certaines cultures où, en fait, ce n'est pas du tout dans la culture de faire ça ou de se déplacer, quoi. C'est vraiment un enjeu, un gros enjeu de politique culturelle. Voilà. Après, les lieux ont leur public, ont leur spécificité. Et c'est sûr que si tu compares la Balsamine avec l'état du parc, ça cherche pas du tout les mêmes publics. Mais comment faire au sein d'un même lieu de diversifier, tu vois? Voilà. Quelle est la politique, je sais pas moi, du théâtre du parc pour se dire comment est-ce qu'il fait venir des jeunes au théâtre, autre que c'est quoi sa programmation, c'est qui y va, c'est combien la place? Voilà. C'est des questions. Mais je t'avoue que nous, la diversité par rapport au produit fini, on la pratique pas parce qu'on n'est pas un lieu de diffusion. Mais par exemple, la diversité des... Parce que nous, on se rend compte aussi à l'endroit où on se trouve qu'il y a des familles théâtrales, tu vois. Mm-hmm. Et comment, au sein de nos appels, on arrive justement à un peu décloisonner les familles théâtrales. Mais de nouveau, ça passe par des collaborations. C'est inviter parfois certains lieux à venir proposer des artistes pour qu'on les accompagne. Mais c'est l'échanger, quoi. C'est dire, ah ben voilà, cette année, on va travailler avec le rideau. L'année d'après, on va essayer de travailler avec le variable. Enfin, voilà, il faut vraiment essayer de bouger. Et je crois que le partenariat est un endroit qui permet ça. Okay. Mais du coup, de vraiment réfléchir tes partenariats comme ça.
Et on arrive à ma dernière question. Donc, Pourquoi, selon vous, une société devrait-elle investir dans la culture? Et qu'est-ce que l'art apporte qui justifie un soutien public?
C'est hyper important parce que c'est le poumon d'une société, quoi. C'est là où on peut questionner les choses, c'est là où peut y avoir de la mise en lien. C'est là où, en fait, on peut essayer de réparer des choses. Parce qu'il y a... Voilà, pour moi, c'est... Oui, je sais pas mieux te le dire. Je trouve que c'est vraiment... c'est un endroit où les choses peuvent bouger, peuvent s'inventer, peuvent s'adapter, parfois, peuvent questionner, peuvent évoluer. C'est pour moi, c'est le poumon d'une société.
Nous remercions encore Christelle pour son temps et ses réponses très pertinentes.
La culture crée donc du lien et structure une identité commune. Même en période budgétaire serrée, l'État a une responsabilité pour éviter que la culture devienne un privilège. Parce que l'art n'est jamais neutre, il reflète des choix. Et la manière dont sont traités les artistes dévoile les priorités d'un pays.
Derrière ce qu'on appelle le statut d'artiste, il y a des trajectoires, des heures invisibles et des vies qui se construisent dans l'incertitude. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée avec ce que la société lui offre ou ne lui offre pas. Au fond, la question reste ouverte. Quelle place voulons-nous donner à celles et ceux qui créent? Une place précaire, accessoire, ou une place reconnue? Parce que la création n'est pas un luxe, mais une manière de penser, de raconter, de relier. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et de celles et ceux qui font exister l'art autour de vous.